chrétienne.com.
Ma boutique chrétienne.com.
La boutique numéro 1 de téléchargement chrétien.
Numéro 1 de téléchargement chrétien.
Ma boutique chrétienne.com.
Des milliers de produits pour vous édifier dans votre foi. Ma boutique chrétienne.com.
Bienvenue dans votre boutique.
La sainte scène la plus solennelle que j'ai prise de ma vie. Alors, le message que je vais apporter, c'est « Vaincre ton plus grand ennemi ». Alors, c'est qui ? Il y en a qui sont en train de penser à leur mari. Non ? À leur femme ? Ouais, c'est ça. À leur voisin, peut-être ? Regarde, Emeline est en train de jeter un regard bizarre à Jean-Guy, là. Non, je rigole. Non, le plus grand ennemi, c'est pas le mari, c'est pas le voisin, c'est pas le patron, c'est pas le boss au travail. C'est pas non plus le diable, comme certains peuvent le penser. Le diable, c'est juste un tentateur, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour te tenter à désobéir à la parole de Dieu, mais il peut pas toucher à ta vie comme ça. Mais ton plus grand ennemi, c'est bien et bien la chair. La chair. Depuis le commencement de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, Dieu a un sérieux problème. Si vous pouvez prendre des notes, prenez parce que j'enseigne. Un sérieux problème, et ce problème, c'est quoi ? C'est votre chair. Parce que la chair n'est pas soumise à Dieu. Qu'est-ce que la chair ? On va ouvrir nos Bibles dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Donc premièrement, la définition de la chair. Si vous avez un ennemi, ce n'est pas le diable, ce n'est pas votre voisin, ce n'est pas votre mari, votre femme, vos parents, les personnes avec qui vous êtes fâchés. Non, votre plus grand ennemi par excellence, c'est ce que la Bible appelle la chair. Et quand on a un ennemi, il vaut mieux plutôt avoir conscience de cet ennemi pour pouvoir le dominer, parce que sinon c'est lui qui va vous dominer. Si vous êtes sur un ring de boxe et que vous oubliez que vous avez un adversaire, vous allez vous en prendre plein la tête, vous allez être KO, et voilà. Mais si vous avez un ennemi, et vous savez qu'il est là, un adversaire en face de vous, vous allez mettre en place les dispositions pour pouvoir lutter contre lui, le dominer et le vaincre. Alors, avant tout, pour comprendre ce qu'est la chair, il faut d'abord comprendre votre être. Comment vous êtes constitué ? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, Paul adresse une lettre aux Thessaloniciens, à l'église de Thessalonique, et il leur parle de leur être et il dit que cet être est en trois dimensions : l'esprit, l'âme et le corps. Si Paul commence par l'esprit, ce n'est pas pour rien. C'est parce que l'esprit, c'est réellement vous. C'est la dimension en vous qui fait de vous ce que vous êtes. Ensuite, il va parler de l'âme et ensuite du corps. Mais du plus important au moins important. Le plus important en vous, c'est d'abord votre esprit. Après, un peu moins important pour Dieu et pour vous, c'est votre âme. Et encore moins important, c'est votre corps. Donc, on est en trois dimensions. Ce n'est pas trois parties, c'est trois dimensions. Littéralement, on pourrait dire, encore pour faire mieux que Paul, vous êtes un esprit qui possède une âme et vous vivez dans un corps. L'esprit, c'est la dimension en vous qui a tous ses désirs tournés vers Dieu et vers la parole de Dieu. Si vous avez envie de prier, vous avez une soif de chercher Dieu, si vous avez une soif de lire la parole de Dieu, sachez que cette soif vient de la dimension de votre être qui est l'esprit. Ça ne vient pas de votre âme, ça ne vient pas de votre corps, parce que votre âme et votre corps n'ont pas envie de se tourner vers Dieu. Mais votre esprit est attiré avec Dieu. Quand vous êtes en relation avec Dieu, c'est en esprit que vous devez être en relation avec Dieu. L'esprit, cette dimension de vous qui est en relation avec Dieu. La première chose à comprendre est que l'esprit est soumis à la volonté de Dieu. Jésus-Christ disait « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible ». Donc, la deuxième dimension, c'est quoi ? C'est l'âme. L'âme, c'est quoi ? L'âme, c'est cette dimension en vous qui est tournée et qui a toujours envie de se tourner vers les êtres humains. Quand vous regardez un film sentimental, je ne sais pas, Meg Ryan ou Nicolas Cage, la cité des anges par exemple, ou je ne sais quoi. Après ça, vous ne remarquez pas que vous avez l'âme vivement touchée. À l'intérieur de vous, vous avez envie d'appeler les gens que vous aimez, leur dire qu'ils vous manquent, ou d'aller retrouver votre bien-aimé, etc. C'est parce que vous avez nourri votre âme, et votre âme, vous l'avez affectionnée, et elle a le désir non pas de se tourner vers Dieu, mais de se tourner vers les hommes. Parce que votre âme est attirée vers les hommes. Et l'âme, elle a plusieurs départements. Donc l'âme est une dimension, comme l'esprit est une dimension, mais elle a plusieurs départements. Les émotions, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez ressentir dans vos émotions. Votre intelligence, intellect, c'est-à-dire votre façon de penser, quand vous raisonnez, tout ça, ce n'est jamais votre esprit. C'est toujours dans votre âme. Quand vous réfléchissez, vous calculez, quand vous planifiez des plans, tout ça se passe dans votre âme. Donc votre corps, c'est la troisième dimension. Et lui, votre corps, vers quoi il est tourné? Votre corps, il est tourné vers tout ce qui est du domaine du visible. Tout ce que vous pouvez entendre, tout ce que vous pouvez voir, tout ce que vous pouvez toucher, votre corps est en relation avec le monde visible. Donc il y a ces trois dimensions de votre être. Maintenant, la chair, c'est quoi dans tout ça? La chair, c'est les départements de votre âme et de votre corps qui ne sont pas soumis à la volonté de Dieu. C'est les départements de votre âme et de votre corps qui ont des désirs contraires aux désirs de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre âme et dans votre corps, vous avez ces départements, j'ai pas envie de dire parties, mais c'est un peu comme des parties si vous voulez, qui ont des désirs absolument opposés aux désirs de Dieu. Tout ce qui en vous, dans votre âme et dans votre corps, est contraire à la volonté de Dieu pour vous, la Bible appelle la chair. C'est tout simplement ça. Je prends un exemple. Dieu est contre la pornographie, par exemple. Dès lors qu'un homme, en lui, tombe sur une image bizarre, par exemple sur Internet, il a des pensées bizarres qui commencent à venir, c'est sa chair. Cette partie en lui, dans son âme, dans son corps, qui n'a pas envie de se soumettre à la volonté de Dieu. Il connaît la parole de Dieu. Un chrétien né de nouveau, il tombe devant cette image, il connaît la parole de Dieu. « Oh, je sais que Dieu ne veut pas que je fasse ça, je ne veux pas que je convoite une autre femme, Dieu ne veut pas que je regarde des images souillées. Dieu dit, soyez saints comme Jésus-Christ est saint, soyez saints parce que je suis saint, ne vous souillez pas, etc. etc. » Il connaît la parole de Dieu, mais sa chair en lui n'a pas envie de se soumettre à la parole de Dieu, et cette partie de son âme et de son corps va commencer à lutter au-dedans de lui. Et tout le monde a cet ennemi, et tout le monde aura en lui cet ennemi jusqu'à ce que Jésus revienne. Personne ne peut dire « je n'ai pas cet ennemi dans ma vie ». Tout le monde l'a, même toi. Et donc, cet homme est là devant cette image, et il va commencer à raisonner dans sa tête, et à se dire dans sa chair. « Oh là là, tu ne pourrais pas faire ça, tu ne pourrais pas aller sur tel site et regarder, excusez-moi l'exemple, mais... » J'ai toutes les semaines des gens qui m'écrivent sur un seul mois, des chrétiens qui ont ce problème-là, et même des gens mariés qui disent « j'arrive pas à lutter contre ça ». C'est la chair, ce n'est pas le diable. Le diable me tente. Non, ce n'est pas le diable, c'est ta chair. Ton ennemi, c'est ta chair. Celui qui n'a pas envie de se soumettre à la loi de Dieu. Celui qui n'a pas envie de faire ce qui est agréable à Dieu. Et là, en lui, il va commencer à avoir ses mauvaises pensées, ses mauvais désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu, cette chair. Et il va commencer à accepter ses pensées, à les nourrir, à les méditer. Il accepte de croire en ce que la chair dit, il met de côté la parole de Dieu. Et là, il commence à engendrer ce que la Bible appelle le péché. Et là, il pêche. Qui c'est qui a fait chuter Adam et Ève? Qui c'est qui a fait chuter Satan? C'est sa chair, son orgueil. Qui c'est qui a fait chuter Ève dans le jardin d'Éden? C'est sa chair, son envie, son désir d'être comme Dieu, l'insatisfaction de sa chair, l'orgueil de la vie. Satan n'était là que pour la tenter, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas poser sa main sur elle et la forcer à pécher, non. Il ne pouvait que tenter. Et dans ta vie, le diable ne peut que te tenter. Il n'est pas l'auteur de tous les maux de ta vie. Il n'est pas responsable de toutes les choses désagréables que tu fais devant Dieu. Et c'est trop facile d'accuser le diable. Non, c'est cette Ces départements de ton âme et de ton corps qui n'ont pas envie de se soumettre. C'est ton ennemi, c'est cette chair. Et tu dois la dominer. Tu dois prendre conscience qu'il est là, dans ta vie, qu'il veut te détruire, qu'il veut t'amener loin de la volonté de Dieu pour ta vie, qu'il veut te faire du mal, qu'il veut te traîner, t'amener dans des péchés pour avoir toutes sortes de malédictions, de conséquences négatives dans ta vie, pour éteindre la présence de Dieu dans ta vie, l'éloigner et t'éloigner de Dieu et te voler ta joie, ta paix et tout ça. C'est la chair, rien d'autre. On va ouvrir nos Bibles dans, pour prendre un appui biblique, Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, verset 16. Vous y êtes ? Galates 5, 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, avec un grand E, le Saint-Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit de Dieu en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vais juste m'arrêter sur un passage de ce que j'ai lu. C'est pour définir ce qu'est la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit ou de Dieu. Et Dieu en a de contraire à ceux de la chair. Ça nous donne une bonne définition de ce qu'est votre ennemi. Votre ennemi a des désirs, il a des souhaits, il a des envies. C'est de faire exactement en vous ce que l'Esprit de Dieu, le contraire de ce que Dieu veut faire. Votre ennemi veut vous amener là où Dieu ne veut pas vous amener. Il ne veut pas se soumettre, il déteste ça, il va tout faire pour en vous mettre des désirs contraires aux désirs de Dieu. Alors il y a des chrétiens qui le dimanche matin ne veulent pas venir à l'église, ils sont dans leur lit fatigués, ils ont envie de profiter du dimanche matin, d'aller au soleil et de sortir en famille. C'est quoi ? C'est le diable ? Non, c'est la chair. C'est son ennemi. L'Esprit de Dieu veut que le peuple de Dieu se retrouve, loue le Seigneur le dimanche matin. Et les chrétiens, eux, ont envie de dormir, de se reposer. C'est la chair. C'est son ennemi. C'est ton ennemi. Et chaque fois que des choses comme ça se passent, où tu connais la parole de Dieu, et en toi, tu trouves des envies contraires, ne dis jamais « je ». Ne dis jamais « je ne veux pas ». Dis jamais « je n'ai pas envie de prier ». Parce que ce n'est pas toi, c'est ton ennemi en toi. Toi, tu es esprit, et ton esprit est toujours disposé à faire les choses que Dieu veut. Mais en toi, tu as quelque chose, cette chair, ton ennemi, qu'il te faut dominer, qu'il te faut prendre conscience qu'il est là, parce que lui veut te pousser à ne pas te consacrer, à ne pas faire la volonté de Dieu. Mais il veut exactement te pousser à ses désirs. Ses désirs ne sont que convoitises. Et lorsque tu acceptes cette convoitise, tu fais ce que la Bible appelle un péché. Et tu ouvres des portes d'accès au diable, au démon, à la souffrance dans ta vie, à la perte de ta joie, à la perte de ta paix, et j'en passe. Vous comprenez bien ? Donc c'est en vous, tout ce qui veut exactement faire le contraire de ce que Dieu veut que vous fassiez. Et même les plus grands ont chuté à cause de ça. Non, le diable n'est pas redoutable. Le diable n'est redoutable que parce qu'il sait comment fonctionne notre chair. Et le diable est redoutable parce qu'il est rusé pour nous tenter, pour que par nous-mêmes, nous obéissions à notre ennemi qui est en nous et qui fait partie intégrante de nous. J'ai une bonne nouvelle. La Bible dit que cet ennemi, nous pouvons le dompter. Alors maintenant, ouvrez vos Bibles dans Romains chapitre 7, 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Paul a eu cette révélation que les chrétiens doivent avoir. Il a pris conscience que son plus grand ennemi, c'était la chair. Et que, il dit, l'homme intérieur, l'esprit de Dieu né de nouveau, a envie de faire la volonté de Dieu, a envie de faire le bien, a envie d'aimer, a envie de prier, a envie de louer, a envie de méditer la parole, a envie de faire toutes sortes de bonnes actions. Mais en lui, Paul dit, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je trouve en moi quelque chose qu'il appelle la chair, qui, alimentée par le péché, s'intensifie depuis que l'homme a chuté. Et cette chair est tellement forte, tellement violente, que je ne peux pas résister. Et que, alors qu'à l'intérieur, je veux faire le bien, j'ai le désir de faire le bien, je trouve en moi cette chair qui me dompte, qui me domine, et qui me pousse à faire ce qui est mal et à pécher. Vous comprenez ? La Bible en parle. Au début, avant que Adam et Ève chutent, avant que le péché vienne en eux, la chair, ils pouvaient vraiment la dominer. Ils pouvaient dire non. Ève aurait pu facilement dire non au serpent qui le tentait. Elle aurait pu ne pas manger, parce qu'elle dominait sur sa chair. Et la chair était faible, très faible. Mais au moment où elle a péché, la Bible parle de cette maladie qui est le péché, qui s'est attachée à l'homme, qui est venue en lui, et qui a commencé à réveiller cette nature charnelle. À la réveiller à un tel point que Dieu s'est rendu compte que depuis que l'homme a chuté, de l'homme a péché, ce péché est en eux, dans leur sang, à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ils se retrouvent à voir toute l'humanité en train de faire des choses atroces. Dieu regarde, il fait « Mais c'est quoi cette chose ?» Il regardait Sodome et Gomorre, il voyait des hommes en train de coucher avec des hommes. Il dit « Mais comment est-ce possible ? C'est la chair, ce n'est pas le diable !» L'homme a ses désirs tournés vers un autre homme. C'est la chair. Il se rend compte que les hommes commencent à ne plus vouloir être mariés d'une seule femme. Ils ont envie d'avoir plusieurs femmes, ils trompent leurs femmes, ils couchent avec les femmes des autres. C'est la chair. Alors Dieu se réjouit de temps en temps. Il trouve certains hommes, comme Moïse, des hommes à qui il a tellement investi. Il a tout donné à ces hommes. Il a discuté face à face avec eux. Ces hommes connaissaient la loi, ils ont eu le réma de Dieu, la révélation des 10 commandements sur la montagne. La présence de Dieu était sur eux, ils avaient le visage illuminé des fois. Et Dieu se dit, je me réjouis de tel homme. Et puis un jour, l'ennemi de cet homme se réveille en cet homme, Moïse, la chair. Dieu lui dit, tu parles au rocher. Et Moïse va se mettre en colère, la chair de Moïse va s'exciter. Et il va frapper le rocher. Les conséquences vont être lourdes pour Moïse. Abraham. Ah, un homme de foi, Dieu dans le ciel se réjouit. Ah, même le diable ne peut rien sur lui. Ah, un homme qui fait ma volonté, un homme qui marche dans la foi, un homme qui a tout quitté pour moi, un homme qui a quitté sa patrie, son père, sa mère, ses amis, pour faire ma volonté. Un homme qui est soumis, un homme qui sait dompter sa chair. Et puis là, un jour, à force d'attendre, la chair d'Abraham se réveille. L'ennemi d'Abraham commence à se réveiller en lui. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Sa femme va lui dire, « Abraham, ça fait longtemps qu'on attend, je suis vieille. Tu sais, Dieu a dit que, je sais que c'est sa volonté, je sais que c'est sa promesse. Mais tu vois, mais regarde autour de nous, regarde comme je suis vieille, regarde. » Et la chair te tente par tout ce qu'elle voit. La convoitise de la vue, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, être quelqu'un. Et la chair est là, elle commence à parler à Abraham. La chair te parle, ton ennemi te parle, il a des désirs. Et il dit, Abraham, écoute ta femme. Dieu peut-être, t'as peut-être un peu oublié, ou peut-être que Dieu t'a promis un fils, mais il t'a pas dit comment. En fait, il t'a dit de ta femme, mais ce qui importe, c'est pas que ce soit ta femme Sarah qui enfante ton fils. Ce qui importe, c'est que tu aies un fils. Il a promis de te bénir par un fils et de bénir ta postérité. Oh, même si c'est pas Sarah, c'est pas grave. La chair parle. à faire les désirs contraires à la volonté de Dieu. Dieu avait fait une promesse à Abraham selon sa postérité, avec sa femme Sarah, sa femme qu'il aimait. Et sa femme lui dit, non, prends Agar, ma servante, couche avec elle. Elle enfantera sur moi et ce sera comme notre fils. Et la chair, l'ennemi d'Abraham, a dominé. Abraham a écouté son ennemi au lieu de le soumettre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a péché en désobéissant à Dieu. Les conséquences sont très lourdes. Aujourd'hui, l'enfant né de Agar et de Abraham, c'est Ismaël. La descendance, les musulmans. Regardez la religion la plus croissante en Europe. C'est lourd. Les guerres qu'il y a eu. Le mal qui est fait à cause de ça. La chair va te détruire. La chair va te pousser à faire des choses qui vont t'éloigner de la protection de Dieu. Ils vont te mettre dans des circonstances, des situations de ta vie difficiles où même Dieu n'aura plus d'autorité légale à cause de ton péché jusqu'au jour où tu te repens. Il ne faut pas écouter cet ennemi. Il faut dominer cet ennemi dans vos vies. Les grands hommes de Dieu, les grands enfants de Dieu sont des hommes et des femmes qui sont disciplinés dans leur chair. Paul dit après avoir prêché, « Je traite durement ma chair, afin de ne pas moi-même être trouvé menteur. » Parce qu'il connaît son ennemi. Il sait que s'il commence à l'affectionner un peu trop, il va se réveiller et va le pousser à faire des désirs qui seront contraires aux désirs de Dieu. Et alors qu'il a la bonne volonté de faire ce qui est agréable à Dieu, de faire le bien, il trouvera en lui l'incapacité, le manque d'envie pour pouvoir faire les choses de Dieu et une envie trop forte vers les désirs de son ennemi, la chair. Cet ennemi est redoutable. Et dans ta vie aujourd'hui, tu dois y mettre un terme. Donc, on va prendre un autre exemple. C'est l'exemple de David et Bathsheba. Vous ouvrez vos Bibles dans 2 Samuel chapitre 11. Vous connaissez tous cette histoire ? Bathsheba, c'est la femme avec qui David a commis un adultère. Vous voyez ? Donc on va commencer à lire. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Notez bien ce que la Bible dit. Il y a un temps de guerre et le roi est censé être le premier à aller en guerre et lider son armée. Là, la Bible dit que le roi David n'est pas allé en guerre. Alors que tout Israël est allé en guerre, alors que l'armée est allée en guerre, David a envoyé quelqu'un à sa place. Et la Bible dit, mais, David reste à Jérusalem. David reste dans le lieu de confort. David reste dans le lieu où sa chair veut être. David ne va pas avec les autres se battre. David ne va pas en guerre. Mais David commence déjà à obéir à sa chair. Il est fatigué peut-être. Peut-être qu'il a envie de profiter, peut-être qu'il a envie de rester avec ses femmes, peut-être qu'il a envie de bien manger, de se reposer. David ne va pas en guerre. La première chose qu'il fait, c'est donc affectionner sa chair. Quand tu commences à affectionner la chair te dit « donne-moi encore plus ». Vous n'avez jamais remarqué que quand vous commencez à trop manger, après pour prier c'est difficile. Tout le monde l'a remarqué. Ayez le ventre bien lourd. Vous regardez 2 heures de feuilleton télévisé. Nourrissez votre chair, comme elle aime bien. Après, allez essayer d'évangéliser dans la rue. Allez essayer d'aller prier. Allez essayer d'aller méditer la parole de Dieu. Plus tu nourris ta chair, plus elle te dit encore, encore, encore. Plus ses désirs en toi augmentent, plus ton ennemi domine sur toi et te pousse à faire ce qui est mal. Et là, David commence à nourrir sa chair. Puis un soir, David se leva de sa couche, verset 2, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, alors là j'imagine le beau temps, le soleil, David tranquille, les autres en guerre, lui il est en peignoir, en train de sortir de sa douche, il se balade, il nourrit sa chair, il se fait du bien. Puis, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure, donc Bathsheba. David fit demander qui était cette femme. Remarquez là, David se balade sur la terrasse et il commence à apercevoir une femme. Et là, en lui, les désirs de sa chair, de son ennemi, sont plus élevés que ses dispositions de son esprit. L'esprit de David a envie de se soumettre à la loi de Dieu. L'esprit de David a envie d'obéir à la parole de Dieu. Mais sa chair en lui commence à convoiter, commence à avoir des désirs contraires à la parole de Dieu. Il regarde cette femme, il la trouve belle et il commence à la convoiter. Le roi David, celui qui passait des heures à écrire des psaumes, celui qui était avec sa harpe et qui louait l'Éternel, celui qui, saisi par le Saint-Esprit, a tué Goliath, celui qui ouvrait la gueule des lions, celui qui disait « Oh Éternel, tu es mon berger, oh Éternel, tu es ma forteresse, oh Dieu, tu es le rocher de mon salut, mon âme ne prend plaisir qu'en toi, je fais de ta loi l'objet de mes délices. Le soir, je me lève de ma couche, non pas pour regarder les filles, mais je me lève de ma couche juste pour t'adorer. À 4 heures du matin, j'ai un tel désir de te louer, ô Seigneur, que je me lève et je commence à t'adorer. Tu es l'objet de toute ma convoitise. Je t'aime, Seigneur. Personne n'est à l'abri de la chair. Il suffit de commencer à l'attiser. Il suffit de commencer à l'affectionner. Il suffit de commencer à obéir trop à ses désirs. Que voilà que la chair prend le dessus sur les dispositions de l'esprit et vous vous retrouvez en face de la tentation. Et là, il y a une lutte terrible à l'intérieur. Et si votre esprit est trop faible, et si les désirs de votre chair sont trop élevés, comme il semblerait David en ce moment-là, en temps de guerre, il est resté, il a obéi à sa chair, il a nourri sa chair. Il se balade le soir, et là, il connaît la loi, il la connaît mieux que quiconque. Mais il n'a pas la force de résister. Il va dire, bon, la chair va dire pendant un peu de temps, oublie Dieu. Pendant un peu de temps, oublie la loi. Pendant un peu de temps, oublie ce qu'il te demande. Profite un peu, David. Profite. Ça va lui coûter cher. Ça va lui coûter la mort de son fils. Ça va lui coûter la colère de Dieu. Ça va lui coûter la perte de sa joie. La perte de sa paix. Si dans ta vie, tu perds ta joie, tu perds ta paix, n'accuse pas le diable. Accuse ton ennemi, la chair qui est en toi. Parce que tu nourris trop ta chair. Tu fais trop ces désirs. Après, ne te demande pas pourquoi les autres sont toujours joyeux, toujours pleins de paix, toujours pleins de joie, toujours souriants, en dépit des circonstances, toujours remplis du Saint-Esprit. Et toi, tu es là à te lamenter, toujours pas bien à l'intérieur. Toujours fatigué, toujours mollasse, toujours envie de manger, toujours envie d'aller au cinéma, toujours envie de profiter, toujours envie de sortir, toujours envie d'aller en vacances, jamais envie de prier, jamais envie de jeûner. Ça fait un an que t'as même pas jeûné. C'est quoi ça? Ça fait plus d'un an que t'as pas lu ta Bible depuis plus de 2 heures. C'est quoi ça? C'est la chair. On est tous objets de la chair. Il n'y a pas une chair dans... Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas cet ennemi en vous. Vous l'avez tous. Et pour beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre nous, parce que moi-même, quand je la laisse, quand je l'affectionne trop, elle me domine. Et même si je prêche l'évangile, je suis dominé. Il y a des prédicateurs qui vivent dans le péché, la convoitise de la chair, et ils prêchent le dimanche matin. Leur message est fade. Ils n'ont plus la présence de Dieu, ils tirent une gueule de bois. Ils n'ont plus la joie, elle est partie à cause du péché, parce que la chair a eu ses désirs, et ils ont succombé aux désirs de leur chair, parce qu'ils n'ont pas dominé. Maintenant que vous prenez conscience de ça, continuons à lire. Puis David, lorsque la tentation vient, lorsque les désirs de l'ennemi sont là en vous, qu'est-ce qui se passe? Il commence à vous donner des pensées. Qui est cette femme? Est-ce qu'elle est mariée ou pas mariée? Si elle n'est pas mariée comme j'ai le droit, bon, à l'époque, d'avoir plusieurs femmes, je vais peut-être faire d'elle ma femme. Donc, David commence à s'interroger. Il commence à penser, oui, je connais la parole de Dieu, je n'ai pas le droit de prendre pour femme la femme d'un autre, sinon c'est de l'adultère. Mais sa chair dit, elle est belle, elle pourrait être aussi ta femme. Tu pourrais, comme dit la Bible, hein, c'est le mot, coucher avec elle. Tu pourrais faire des enfants avec elle. Comme il serait beau, regarde comme elle est belle, regarde comme tu es beau. D'ailleurs, est né plus tard le bel enfant Salomon de leur union. Mais la chair commence à parler à David. Et bien souvent dans ta vie, la chair te parle. Ton ennemi te parle. Quelle est ton attitude? Jésus disait l'attitude à avoir. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ton bras droit est pour toi une occasion de chute, coupe-le ta main. Parce que vaut mieux pour toi entrer dans la vie manchot que rentrer, que mourir éternellement. Qu'est-ce que Jésus disait? Sinon, on serait tous à borne avec un bras coupé. Mais Jésus est en train de dire, quand tu te retrouves dans la situation de David, plutôt que commencer à continuer à regarder, alors que ta chair a ses désirs, plutôt de continuer à affectionner et à méditer sur les désirs mauvais de ta chair qui sont toujours, 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 toujours contraires aux désirs de Dieu, au lieu de faire ça, commence à prendre tes jambes à ton cou et à courir et à t'éloigner de là. Parce que la chair est redoutable. Jésus le savait. Et le diable le savait. C'est pour ça que Jésus, dans ce corps, il a été tenté comme Adam et Ève. Mais Jésus connaissait l'ennemi de la chair. Il savait que la chair devait être soumise par la parole de Dieu. Il a dit au diable, il est écrit. J'ai peut-être faim, mais il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et puis Jésus, un jour, voulait que ses disciples prient avec lui. Il était dans le jardin de Gethsémané, le moment le plus important pour lui. Il allait être livré ce soir-là. Et il dit, Pierre, Jacques, Jean, venez avec moi, vous trois, mes compagnons les plus proches. Il ne prend pas tout le monde, parce que Jésus était oppressé dans un temps difficile. Et puis là, il dit, soutenez-moi dans la prière, parce que ma chair commence à être lâchée. Ma chair devient difficile, même Jésus-Christ. La chair est inquiète. Et puis les disciples vont commencer à prier et ils vont s'endormir. Jésus va venir et il va leur dire, vous n'êtes même pas capable de prier, meurs avec moi. La chair est faible, priez afin de ne pas tomber en tentation, éveillez, car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. La chair est faible, les disciples dorment. Jésus-Christ est Dieu. Dieu donne la volonté à ses disciples, priez et veillez, avec moi. Et ils s'endorment. La chair est incapable de se soumettre au désir de Dieu. Elle a exactement envie de faire le contraire. C'est ta chair. Elle est en toi. Ne regarde pas la chair de ton voisin, parce que la chair, elle est très simple. Quand tu commences à prêcher sur les choses négatives dans ta vie, la chair en toi, elle commence à dire quoi ? Il parle pour ton voisin. Tu vois les problèmes de l'autre. Jésus a dit, ne regarde pas la paille qui est dans l'œil de ton voisin, mais regarde la poutre qui est dans ta vie. Regarde la chair dans ta vie. Regarde tous les dégâts qu'elle fait. Regarde comment elle t'éloigne de Dieu. Regarde comment elle t'éloigne de l'intimité. Regarde comment elle te met en colère. Regarde toutes les disputes qu'elle engendre. Regarde toutes les mauvaises paroles qu'elle met. Je ne peux pas, je n'y arriverai pas, je suis pour un rien. Je suis fatigué, j'en peux plus, c'est trop difficile. Oh là là, ceci, oh là là, cela, les prises de tête, les querelles, les disputes, les envies, les acceptables, tout ça, c'est la chair. Il faut qu'aujourd'hui vous arrêtez avec votre chair. Il faut dire stop et la dominer, la dompter. Il faut lui parler, lui dire tais-toi maintenant. C'est l'esprit qui domine. Là, j'ai envie de prier, j'ai pas envie de regarder la Star Academy.
Quelqu'un qui regarde la Star Academy, si ? Je rigole.
On continue notre histoire. Cette femme, etc. Donc David demande qui c'est. Elle se baignait, elle était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri. Donc elle est mariée, David l'apprend, le Héthien. Et David envoya des gens pour la chercher. Même si David sait ce qui est mal, sa chair et les désirs de son ennemi, la chair, sont tellement forts qu'il ne va pas pouvoir résister. Lui, le roi David, lui, le psalmiste, il va aller chercher cette femme. Remarquez qu'il n'a pas encore péché, mais il va affectionner la chair de plus en plus proche et ça va l'amener inévitablement à pécher. Je ne vous raconte pas la suite. Il apprend qu'il est marié, il couche avec elle. Elle n'a pas le choix d'obéir parce qu'il est roi. Et ce que David a fait là, ça s'appelle commettre un adultère. Il a couché avec la femme d'un autre, qui en plus était en guerre. Et vous savez ce que David va faire après ? Parce que sa chair va continuer à lui parler. Oh, il aurait pu s'arrêter là et se repentir du mal qu'il a déjà fait. Mais non, la chair en veut toujours plus quand tu la nourris. Plus tu nourris ta chair, plus tu affectionnes ta chair, plus elle va t'amener dans les profondeurs et les profondeurs et les profondeurs et les profondeurs du péché. Là, David a commis un adultère. Il ne va pas s'arrêter là, il va commettre un meurtre. Il veut se marier maintenant avec elle. Il veut avoir des enfants avec elle. David apprend qu'elle est tombée enceinte de cette première relation. Et puis là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer un homme dire au mari de cette femme, de Bathsheba, qui est en guerre, de venir, d'arrêter la guerre, de venir chez lui. Et David va ensuite le renvoyer et il va faire en sorte de donner à Joab, le chef de l'armée d'Israël, de mettre cet homme qui est mari de Bathsheba en première ligne pour qu'il se fasse tuer en premier. Par intermédiaire, David devient le tueur de cet homme. Pourquoi ? Pour satisfaire sa chair. Qui est le maître de ta vie ? Ta chair et ses désirs ? Ou Dieu et la parole de Dieu ? Qui tu obéis dans ta vie ? Tes propres désirs charnels ou les désirs de l'Esprit de Dieu en toi? Commence à réfléchir. Commence à regarder ta vie. Commence à regarder tout ce que tu fais. Et considère la part qu'a la parole de Dieu dans ta vie et la soumission que tu as à la parole de Dieu. Et tu verras à quel point le maître de ta vie, ce n'est pas Jésus-Christ. Mais le maître de ta vie, c'est ta chair. Ta chair te dit de partir, tu obéis. Jésus te dit d'aller évangéliser, tu n'obéis pas. L'Esprit de Dieu te dit, prie une heure par jour. Passe un temps de qualité avec ton Dieu. Ta chair te dit, non, regarde la télé, fais le ménage, travaille. C'est pas vrai ? C'est qui le maître dans ces cas-là ? C'est Christ et sa parole ? Ou c'est votre ennemi, votre chair en vous, qui n'a qu'un but de vous éloigner de Dieu et vous faire pécher ? Je vais vous parler. Cette semaine, j'étais dans la chambre et je regardais un cadre qu'avait écrit une sœur qui s'était convertie. Elle avait écrit un poème tout joli qu'elle avait offert à Dieu. Elle a dit, « Oh Dieu, tu es ma forteresse, tu es mon précieux trésor. Aujourd'hui, plus rien n'a de goût pour moi si ce n'est toi. Tu es l'objet de toute ma... Qu'est-ce qu'elle disait de toute ma passion? Je t'aime. Pour toi, je ferai n'importe quoi. Cette sœur s'appelle Charlène. Elle a 16 ans, je crois. Et juste avant de lire ça, j'ai appris que cette sœur qui s'était convertie, baptisée, aujourd'hui prend de la drogue, fait des choses pas bien avec des garçons. Quand on prie, elle rigole. Elle se moque des choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a trop affectionné sa chair. Elle a trop laissé son ennemi prendre du terrain. Et elle a fini par succomber et être dominée entièrement par son ennemi. Et là, ce dont elle a besoin, c'est d'être secouée par la parole de Dieu. Arriver à une sincère repentance et quitter cet état. Et apprendre ensuite à dominer son ennemi. Regardez, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Il y a la semaine dernière. Tu peux être saturé de sa présence. Tu peux guérir des malades. Tu peux marcher et voir des gens guéris, touchés. Tu peux avoir du matin au soir la louange sur ta bouche. Tu peux passer des jours et des jours dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, à la méditer, à pleurer devant. Ça ne change pas que si tu commences à délaisser ta vie de l'esprit et tu commences à nourrir ta chair, à l'affectionner, que la semaine suivante, cette semaine de gloire, tu seras la personne la plus charnelle du monde. Que celui qui se croit debout ne prenne garde de tomber. Vous avez entendu parler de ce grand prédicateur, je ne citerai pas son nom. Il avait une grande université, très grand. L'un des hommes les plus puissamment utilisés dans le monde entier. Des miracles, des résurrections des morts, des guérisons. Des hommes qui étaient pour des milliers, des centaines de milliers, voire des millions, des modèles. Un modèle pour les pasteurs, un modèle pour celui que je peux être. Un homme qui avait une université avec plus de dizaines de milliers d'étudiants aux États-Unis. Il était regardé comme un modèle à suivre. Comme Paul dit, soyez mes imitateurs. Et puis un jour, les journalistes ont fait un couvage à cet homme. Ils ont fait venir une prostituée dans son bureau. Et là, il ne savait pas que c'était une prostituée. Elle l'a séduit. Il a affectionné sa chair, il a obéi à sa chair. C'est pas le diable. Le diable est peut-être celui qui a amené cette femme. Mais c'est la chair qui a fait tomber ce prédicateur. Son ennemi, son plus grand ennemi. Et là, ce qui s'est passé, c'est que ce prédicateur a eu un rapport avec elle. Et dès qu'il sort de sa chambre, les caméras, les bras autour de cette femme, il a pleuré toutes ses larmes de son corps. Il a demandé pardon à sa femme et à ses enfants devant la caméra. Il a pleuré. Je vous demande pardon. J'ai pas d'excuses. Il a pas accusé le diable. Parce qu'il savait très bien que c'était sa chair. Et moi, je vais vous dire, ce prédicateur, peut-être avant, à mon avis, il avait bien mangé. À mon avis, il avait bien regardé peut-être la télé. À mon avis, il avait bien fait des choses. Parce que si, quand cette femme était rentrée, il était rempli de l'Esprit de Dieu, il aurait dit, je connais ton vice. Ma chair, tais-toi! Sors de mon bureau! Mais sa chair était affectionnée comme David. Réveille-toi. Prends conscience de ton ennemi. Secoue ta chair. Dompte-le. Domine-le. Et cet homme, les gens lui ont pardonné. Et ça s'est reproduit une deuxième fois dans les mêmes circonstances. Et là, ça a été fini pour son ministère. Pourtant, un homme remarquable. On n'est pas rempli 24h sur 24 du Saint-Esprit. Ça s'entretient. Et puis, les journalistes sont allés voir Billy Graham, un ami de ce prédicateur. Vous connaissez tous Billy Graham. Et ils ont dit, Billy Graham, voici ce qui est arrivé. Qu'en pensez-vous? Billy Graham a baissé la tête devant sa maison. Il est parti. Le bras droit de Billy Graham a dit à la presse, attendez, je vais voir ce qui lui arrive. Il est allé dans la chambre, il a vu Billy Graham à genoux, à côté de son lit, en train de pleurer. Billy Graham pleurait, et il disait ces mots. « Père, je ne suis qu'un homme comme lui. J'ai une chair. Si lui a chuté, lui que je considérais, moi aussi je ne suis pas à l'abri. » Jésus a dit « Veillez et priez !» Veillez et priez. Veillez, c'est aussi être attentif à votre ennemi. Vous devez avoir des balises dans vos vies. Quand votre ennemi se réveille, quand votre chair se réveille, vous savez par la parole de Dieu que je suis en train de vous dire ce matin que c'est lui, vous le discernez et vous dites stop, là c'en est trop, je ne te laisserai pas trop de part dans ma vie. Je ne dis pas que c'est mauvais de regarder la télé, je ne dis pas que c'est mauvais de passer du temps avec les gens, de pas se prendre des vacances, c'est bon, mais attention à l'excès, attention à l'excès. Il doit y avoir un équilibre entre les choses spirituelles et les choses charnelles dans votre vie. Il doit y avoir un équilibre entre l'affection de votre chair et l'affection de votre esprit et de l'esprit de Dieu. Sinon, vous allez être des chrétiens charnels, des chrétiens molles, des chrétiens qui ne gagnent pas d'âme, des chrétiens qui ne portent pas de fruits, des chrétiens qui sont bons à regarder la télé, à donner des bonnes paroles aux gens. Tu es gentil, je t'aime, tu es gentil. Les gens charnels, ils sont très affectifs et les gens les aiment beaucoup. Mais ils sont loin de Dieu. Je suis désolé de vous dire tout ça, mais c'est la vérité de la parole de Dieu. Et il est temps qu'on soit secoué dans notre statut, cola, dans notre bien-être, qu'on secoue notre chair et qu'on décide à se zéler pour l'évangile de Jésus-Christ. Qu'on décide à mettre Dieu en premier, à mettre Dieu maître de notre vie et dire à notre chair de se soumettre maintenant. Vous avez bien compris ce qu'est la chair ? Ouais ? Je me prêche à moi aussi, hein, parce que si je vous prêche ça et que je rentre chez moi et que je vais être jugé plus sévèrement que vous, parce que moi je vous l'ai enseigné. Je sais ce que je fais, mais je sais que c'est ce que Dieu m'a demandé de faire. Voilà pourquoi je le fais. Sinon je vous aurais donné un bon message de foi. Wow, Jésus, guéris les malades, allez dans la rue, prêchez, évangélisez, vous croyez au miracle, on va avoir des miracles ce matin. Non, il y a eu trop de ça, trop d'échecs, trop de déceptions, trop de fatigue. Il est temps que les chrétiens se réveillent, soumettent leur chair à leur esprit. J'ai fait une petite liste hier soir avant de me coucher, en 5 minutes, de quelques points qui nous permettent d'identifier si c'est la chair, si c'est notre ennemi, votre ennemi qui vous parle. Lorsque le dimanche matin, vous êtes dans votre lit et que vous vous réveillez, il y en a qui se sourient. Je t'ai démasqué, frère. Non, je rigole. Non, mais tout le monde, c'est pareil. Il n'y a pas d'exception. Il faut juste la dominer. Tout le monde en a ces moments de charnel. Mais la Bible dit, ne soyez pas enivrés de vin, car c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Je vais vous expliquer un principe important après. Donc, le dimanche matin, vous vous levez, la fatigue, le réveil, ou le samedi soir, les pensées commencent à venir le samedi soir, n'est-ce pas ? Pourquoi irais-je à l'église ? Ah, c'est devenu un devoir. Et je vais vous dire une chose. Les gens qui vont à l'église le dimanche matin, non par envie, mais par obligation, par rituel, par habitude, c'est la chair. Lorsque vous faites quelque chose par tradition, c'est la chair.
Va à l'église, va louer ton Dieu, va lever tes mains, puis rentre chez toi et mène ta petite vie tranquille.
C'est la chair. Je préfère que des gens ne viennent pas à l'église et la semaine passe du temps avec leur Seigneur et leur Sauveur, ont une intimité profonde et méditent leurs paroles. Que des gens qui viennent s'asseoir le dimanche matin sur des chaises et qui n'aiment pas Dieu la semaine, qui se fichent de Dieu, qui prient 2 minutes par jour, qui l'oublient. Détrompez-vous. Si vous avez un mari, une femme et que vous lui parlez 2 minutes par jour, vous le soir avant sur votre lit. Ah, le soir, ça c'est les chrétiens. Le soir sur le lit, Seigneur, je t'aime. Vous faites ça 10 fois au Seigneur. Faites la même chose 10 fois à votre femme ou à votre mari, plutôt votre femme. Ça, ce qui est bien les choses des maris. Vous allez voir ce que votre femme va dire. Mais tu m'aimes ou quoi ? Toute la journée, tu travailles, tu rentres le soir, je te fais à manger. Bon, ça dépend. Mais le soir, on a des moments d'intimité, près de la lampe de chevet, sur le lit, et toi, tu dors. Tu m'aimes ou pas ? Peut-être que tu m'aimes, mais tu m'aimes pas comme tu devrais m'aimer. L'homme est charnel. Et la femme devient charnelle, parce qu'elle commence à être en colère, sa chair commence à s'exciter, et elle devient une machine, comment dire ça, les gens qui ne font que parler. Elle jette ses 9000 mots quotidiens sur son mari. Mais comme si. Les femmes, c'est la chair, les commères là. Ah, t'as vu un tel, il a fait ça. Oh, t'as vu Michael cette semaine, il a prêché à l'église, oh, il a dit ça, je suis pas d'accord. Ah, oh, t'as vu un tel avec ses drapeaux comme ça dans l'église, les trucs prophétiques. Moi, je le sentais pas trop, il est dans la chair. T'es aussi dans la chair. La chair ne critique pas. L'Esprit de Dieu se soumet à la volonté de Dieu. Et au lieu de critiquer, il va dire, Père, tu as vu un tel, je suis pas sûr, s'il te plaît, corrige-le. Plutôt que de parler, vous parlez, vous parlez, la chair parle, elle critique, elle fait que critiquer, quoi, 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 elle fait que dire du mal, et puis après, ça s'arrête à là, elle prie même pas. C'est la chair, c'est dégueulasse, c'est dégoûtant, Dieu est ça. C'est votre chair, c'est votre ennemi qui fait tout ça, c'est pas vous, vous êtes esprit, et à l'intérieur, vous avez de bonnes dispositions. Paul dit, j'ai le désir de faire ce qui est agréable, mais je trouve en moi quelque chose qui m'en empêche, c'est la chair. Et donc, je revenais le samedi soir, et là, chérie, tu sais, il fait beau demain, dimanche. On va voir la famille ? On va voir la famille. Papa, maman, on les a pas vus depuis un moment. Ouais, ça fait 3 semaines. Ouais, on y va. Et puis, ils vont bien manger. Ils pensent au bon mouton grillé que les grands-parents vont faire. ou les bonnes grillades, c'est la chair. Ah, j'ai faim. La belle terrasse des parents. Oh, le gazon. Le soleil. Oh, les petits enfants. Oh là là. Non. La chair. L'Esprit de Dieu te dit, va dimanche matin à l'église, après tu iras voir tes parents. L'Esprit de Dieu dit, consacrez-moi une journée, au moins dans la semaine. C'est la loi. On n'est plus sous la loi, on est sous la nouvelle alliance, mais la volonté de Dieu reste la même. C'est votre chair qui vous parle, c'est votre ennemi qui domine sur vos vies. Dieu a constitué une église et attend le dimanche matin avec un ardent plaisir. La dîme. C'est la chair. En début de mois, la paie tombe. Oh, je ne vais pas donner ma dîme tout de suite. On ne sait jamais ce qui va arriver dans le mois. Je vais attendre la fin du mois. Et en plus, Seigneur, s'il n'y en a plus, je te donnerai plus. C'est la chair. Il a dit, donnez-moi les prémices de vos revenus. Ce n'est pas une obligation, on n'est pas une secte dans les églises évangéliques. Mais c'est un désir de l'Esprit de Dieu. Alors qu'est-ce que t'écoutes, toi, ton esprit? T'écoutes cette envie? Mais à chaque fois que tu as cette envie que c'est contraire à la parole de Dieu, dis-toi que ce n'est pas toi, c'est ton ennemi qui te fait ça. Alors arrête de dire « j'ai envie, oh je vais garder mes sous ». Non, dis « ma chair veut garder les sous ». Mais moi je suis disposé, quoi que je vois, quoi que j'entende, quoi que la situation de mon foyer dise, je donnerai ma dîme parce que un tel dit la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est ta chair qui te parle. Hé, c'est votre chair. Et votre chair n'est pas votre amie. Et elle n'est pas vous. Elle est votre ennemie, elle veut vous tuer, vous détruire, vous éloigner de Dieu. Alors dominez-la, traitez-la durement. Je ne dis pas de ne pas prendre soin de son corps, parce que ce n'est pas le corps, la chair. C'est les désirs de ce corps. C'est tout ce que vous ne voyez pas qui vous pousse à faire le mal. Prenez soin de votre corps. Mais faites attention, l'excès réveille les désirs de la chair. Et quand ces désirs sont trop forts, qui que tu sois, monsieur un tel ou madame un tel, tu seras comme les plus grands qui ont chuté, tu chuteras. N'affectionnez pas la chair. Le soir, tu rentres du boulot, bien fatigué après ta journée de travail. Tu te commences à dire « Oh, je suis fatigué !» Non, non et non. Tu dis « Ma chair, mon ennemi, est fatiguée !» Mais n'appelle pas la chair, toi, parce que tu n'es pas chair. Tu n'es pas charnel, tu es esprit. Alors, mon frère, ma sœur, arrête de dire « je ». Et tu commences à dire « Je suis fatigué. Ah, je vais commencer par prendre un bon bain. » Ta chair est fatiguée. Elle te dit « Va prendre une douche. » Et tu vas prendre une douche. Un bon bain. T'es encore plus fatigué. C'est bizarre, hein? T'es fatigué, tu prends un bain, t'es encore plus fatigué. Pourquoi? Parce que tu as encore nourri ta chair. Et plus tu la nourris, plus elle en veut. Donc plus elle augmente ses désirs. La fatigue augmente. Puis après, ah, j'ai la flemme de faire à manger. Voilà, on va dire à un tel de faire à manger. Allez, hop. Et la personne qui est avec toi fait à manger à ta place. Tu te reposes bien. Tu allumes la télé. Et ah, regardons la télé. Tu regardes la télé. 4 heures se sont écoulées depuis que tu es rentré du travail. Où est Dieu dans tout ça? Nulle part. Nulle part. Juste en Korabashankarabababasa. Korabababababasa. Devant Star Academy. Devant Santa Barbara. Karabashambabarabara. Devant Dallas, tu parles en langue. Non. Où est Dieu? Et puis tu veux manger. Tu penses qu'à manger. Et tu prends un bon repas et tu manges. Tu prends le temps de nourrir ta chair et ton corps. Et puis quand vient le soir, oh, je suis fatigué. Je vais dormir, je sommeille. Et tu dors. Et tu fais ça 7 fois par semaine. Where is God? Where is Jesus? Où est la parole de Dieu? Puis tu dis par bonne conscience, et c'est encore la chair. L'Esprit te dit, médite. La chair te dit, lis la Bible vite fait. Tu ouvres ta Bible. Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi m'a parlé l'Éternel, fais-toi des liens de joug et mets-les autour de... Oh, c'est pas pour moi ça aujourd'hui. Et puis finalement tu dors. Tu t'endors. Tu n'as pas lu la Bible, tu n'as pas la médité. Tu lis la Bible, ça reste dans ton âme. Et ça, rien ne descend dans ton esprit. Parce que tu la lis comme ça, t'es fatigué, tu... Franchement, secoue ta chair. Quand elle te dit « je suis fatigué », tu dis « non, je ne suis pas fatigué. Je vais prendre un bon bain, je vais regarder un moment l'actualité, la télé, la météo, je vais passer un bon temps avec mon mari ou ma femme, je vais m'occuper un peu des enfants, mais après ça, Oh, mon esprit domine sur toi. Mon esprit domine sur toi. Et Jésus est le numéro un dans ma vie. Je vais passer une heure à méditer sa parole. Je vais faire de lui mes délices. Je vais prier en langue. Je vais parler. Je vais m'adresser à celui qui m'a sauvé, à celui qui un jour ouvre mes yeux, que mes yeux un jour verront. Et là, tu es dans la bonne attitude. Il y a un équilibre. Vous comprenez? Je ne vous demande pas d'être des chrétiens méga spirituels ou je ne sais comment on peut appeler ça. Je vous demande d'être des chrétiens qui dominent leur chair, qui font la juste part des choses, qui savent donner à Dieu et au désir de Dieu et à l'Esprit de Dieu ce qui doit être donné à Dieu et à ses désirs, et donner à votre chair, à vos envies, à vos désirs ce qui doit être donné, mais pas dans l'excès. Affectionnez la chair un peu, mais surtout affectionnez l'Esprit de Dieu. Paul disait « L'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété à beaucoup de choses. » C'est pas mauvais de faire du sport, mais faites du sport, mangez, allez au cinéma, nanana. Si vous faites tout ça, équilibrez tout ça par une vie spirituelle, lisez aussi la parole de Dieu. Sinon vous allez être charnel et vous allez commencer à pécher. Quand la tentation va venir, parce que votre chair elle est bien grasse, bien remplie, vous allez être là et vous allez obéir à la tentation, vous allez pécher. Vous comprenez?
Donc,
on prend le temps de manger, nourrir notre corps, mais on ne prend pas le temps de nourrir notre esprit par la parole de Dieu. Jésus disait, quand ses disciples pensaient qu'à manger, « Seigneur, tu n'as pas mangé, mais ce n'est pas normal. Jésus, tu n'as pas mangé. » Et Jésus était en train de faire la volonté de son Père, il était en train d'évangéliser une femme. Et il disait, qu'est-ce qu'il disait, vous savez? Non, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Ma nourriture. Jésus savait qui il était. Il était avant tout esprit. Sa chair, c'était pas lui. Ou encore, tu es en voiture, tu vas au travail, il y a un embouteillage, un accident. Et là, au lieu de mettre une bonne prédication, alors que tu n'as pas du tout médité la parole de la semaine, de mettre un bon message qui va bien te nourrir, ou alors au lieu d'écouter un bon CD de louange et d'adoration, tu regardes dans tes CD, tu vois en face de toi Michael W. Smith, puisque tout le monde le connaît, Worship, et tu vois à côté Hélène Segarra. Tu dis, encore de la louange, c'est ta chair qui te parle. Et ta chair te dit, Hélène Segarra. Et tu mets Hélène Segarra. Elle, tu l'aimes, c'est fort, c'est teint. Après tu dis, allez, change de CD. Lara Fabian, tout est fini entre nous. C'est la peine du tout. Et après là, ta chair te dit, je te souviens de cette histoire d'amour que tu as vécu, ou tu te souviens de ton beau temps quand tu venais de te marier, ou quand tu étais marié, tu te souviens du beau temps que c'était. Et puis là, tu commences à avoir de la nostalgie en toi. Tu commences à te sentir pas bien. Tu commences à avoir des angoisses. Tu commences à avoir ce que le monde appelle le blues. Ne t'étonne pas, tu nourris ta chair. Je vois que ça parle à certains. Mais dans ces moments-là, il faut avoir une bonne attitude. Ou encore, ça j'ai noté ce matin en me levant, le sentiment de rejet. C'est le diable! Non, c'est la chair! Personne ne m'aime. Non, je ne me moque pas de vous. Parce que j'ai eu des moments comme ça. Je me moque de la chair. Okay? C'est elle, c'est pas vous. Vous êtes esprit. Alors, tu arrives là. Et ton collègue de travail te sort une vacherie. Pff, t'es pas belle aujourd'hui. T'as fait un sale boulot, ton patron est pas content. Mon patron est pas content. Et tout de suite, la première réaction, c'est je vais pas prier, je vais pas ouvrir ma Bible, je vais pas me fortifier par la parole, je vais pas prendre pour exemple Jésus-Christ. Non, la première réaction, c'est tu prends ton voisin. Et t'as vu ce qu'elle a dit? Tu penses vraiment que je suis comme ça? La chair. C'est la chair. Ta chair dit. T'es sûr que t'es comme ça? Elle t'accuse. Non, moi je suis belle. C'est la chair qui te parle, c'est pas toi. Toi tu es esprit. Tu n'es pas des pectoraux, tu n'es pas des biceps, tu n'es pas des poitrines, tu n'es pas tout ça. Tu n'es pas quelque chose de comme ci ou comme ça. Tu es esprit. Tu es cœur. Et donc je continue. Et puis là, après c'est pas insatisfaisant. Tu appelles ton mari chéri, tu sais. Mon patron m'a dit ça, ma collègue m'a dit ça. Vraiment, j'en ai marre de ce boulot. J'en peux plus, je suis pas à l'aise, je suis pas bien. Tu rentres chez toi toute la semaine, t'es dégoûté, mauvaise relation, on t'a blessé. Tu pleures niche, tu cries, tu appelles ta maman, tu appelles ton copain, tu appelles ta femme, tu appelles tes amis, tu parles en mal de lui, tu critiques. C'est la chair! Ce n'est pas toi, c'est ta chair, c'est ton ennemi en toi. Identifie-le et domine sur lui. Personne ne m'aime. Je suis pas comme lui. Lui réussit, moi non. C'est pas toi, c'est la chair en toi. C'est ton ennemi. Domine sur ça. Dis, ce n'est pas moi. Etc. Ou les sentiments de pitié de soi. Ah ça, la chair aime qu'on ait pitié d'elle. Ayez pitié de moi. Oh, ayez pitié de moi. Tu sais, moi... j'ai tel problème. Moi, ça réussit pas, mes affaires. Moi. Et ton voisin, il est en train d'essayer de te dire, mais tu sais, moi, je suis dans une galère beaucoup plus difficile que toi. Je sais pas, mais t'imagines, ma mère est morte cette semaine, je peux plus. Et toi, tu es là, ouais, tu sais, moi aussi, ma mère est morte. Moi aussi, j'ai eu des moments difficiles. Moi. C'est la chair. L'esprit, lui, est disposé à encourager cette personne, à la relever, à l'édifier par la parole de Dieu. Alors, les femmes qui rentrent chez elles, elles arrivent près du canapé, et là, elles voient une chaussette du gamin traîner, et puis là, elles voient une chaussette...
Ah!
Et après, ça va plus loin que ça. Ça commence par des disputes, ça finit par des querelles. De toute façon, toi, t'es comme ça. C'est toujours moi qui fais tout. C'est toujours moi qui essaie. C'est toujours moi cela. Toi, t'es bon qu'à rien. Nanana. Mais si t'es rempli du Saint-Esprit, quand les gens arrivent et te critiquent, tu tends la joue droite, comme dit Jésus. Tu peux continuer. Oh, je suis dans la joie. T'as ton compte bancaire dans le rouge. Tu es rempli du Saint-Esprit, tu restes dans la joie. Et le fruit de l'Esprit est là. Alléluia. Je suis peut-être dans le rouge, mais mon âme est sauvée. La pire des choses qui puissent m'arriver sur la terre, c'est de mourir. Et si je meurs, la mort m'est un gain. Alors mon âme, alors ma chair, pourquoi ta tristesse ? Réjouis-toi et tu danses comme David. Ça, c'est des gens matures, des chrétiens forts, des chrétiens ancrés dans la parole, des chrétiens spirituels. Qui n'ont pas de place pour le charnel et qui savent traiter leur chair, qui sont disciplinés, qui ont une vie équilibrée, une vie où Dieu est le centre, une vie d'intimité. Et quand ils voient la chaussette, ils appellent leur enfant. Chérie, t'as laissé ta chaussette traîner, c'est pas bien, je te l'ai dit plein de fois. Ok, tu ramasses maintenant. Ils n'ont pas besoin de crier, ils sont remplis déjà d'autorité. Et leur douceur fait en sorte que les enfants obéissent. Mais si toujours t'es là avec ton fils, comment veux-tu qu'ils t'obéissent? Il va être en colère, tu vas exciter sa chair. La chair aiguise la chair. Le fer aiguise le fer. Sois en colère avec des gens, ils seront en colère avec toi. Sème des mauvaises paroles chez les gens. Sème la chair, tu récolteras la chair. Mais sème l'esprit, sème l'amour, sème la douceur, sème la fidélité, sème la piété. Tu verras. Il y a des gens, ils sont en train de dire « Ma femme n'est pas spirituelle » ou « Mon mari n'est pas spirituel. Moi, j'aime le Seigneur, la chair. Moi, je prie la chair. » Si tu veux agir spirituellement, comprends une chose. Ce n'est pas ce que tu diras qui portera du fruit dans la vie de ton compagnon. C'est ce que tu montreras. Quand à 3h du matin, vous êtes en train de dormir, et puis toi, tu te lèves de ton lit, et tu vas en bas, près de la cheminée, tu ouvres la parole et tu commences à parler. Tu commences à prier en langue, 1 heure, 2 heures. Ta femme ou ton mari en haut se réveille et fait oh, incroyable. Qu'est-ce qu'il aime, Jésus? Ça parle. Vous pouvez être sûr que vous faites ça une semaine, des semaines suivantes, une sainte jalousie va se réveiller dans l'esprit de votre compagnon. Et il va faire la même chose que vous. La chair est mauvaise. Il y en a, c'est l'alcool. Il y en a, c'est la cigarette. C'est passion. C'est pas vous, ça, c'est la chair. Je ne peux pas. Ma mère m'a tenu ce discours des années. Je ne peux pas arrêter la cigarette. C'est plus fort que moi. La chair.
Dis plutôt, ma chair ne peut pas arrêter, parce qu'elle a des désirs contraires à ceux de Dieu. Dieu veut que je tienne mon corps rempli du Saint-Esprit, mon corps est le temple du Saint-Esprit, je ne souillerai pas. C'est défectueux, ça me donne le cancer, ça bousille ma vie. Il y a des gens qui meurent prématurément à cause de cette saleté. Je ne me souillerai pas, mais ta chair te dit, oh, c'est pas un péché. Tu loues, tu aimes Dieu. Oui, mais ta conscience, c'est peut-être pas écrit dans la Bible, mais ta conscience te dit ce qui est bien et ce qui est mal. La cigarette n'est pas de Dieu. Non, j'en ai marre. Je ne veux pas vous dire, Jésus ne vous aime pas. Je ne veux pas dire, vous n'êtes pas chrétien. Ce n'est pas vrai. L'amour de Dieu ne changera pas pour vous. Et votre amour pour Dieu ne change pas. Mais vous affectionnez votre chair. Et quand vous le faites, vous ouvrez des portes à certaines choses. Dieu ne condamne pas ceux qui fument. Mais il dit, c'est dangereux pour toi. Ça va te tuer prématurément. Ça te fait du tort. Et tu dis, ma chair ne peut pas. Tu dis, ma chair ne peut pas. Et puis, ta chair commence, elle parle la chair, vous savez. Elle parle très bien, mieux que Sarkozy. Sérieusement. Elle a des arguments qui sont pas, qui restent pas que dans la tête, mais qui vous prennent dans tout le corps. Vous êtes là, vous sentez une montée d'adrénaline. Vous êtes là, vous sentez une montée d'hormones. Vous êtes là, vous sentez un manque terrible. Il y a la voix de la chair, mais il y a cette espèce d'accompagnement physique qui est là, qui fait que ça devient insupportable. Et puis vous commencez à parler. Oh, ce n'est pas un péché, la cigarette. Ah, petite cigarette comme ci, comme ça. Au contraire, ça déstresse. Je loue mieux le Seigneur après. Il y en a même qui prennent du joint et qui fument pour mieux louer leur Dieu après. Mensonge de la chair. Et ma mère, elle disait, je ne peux pas arrêter la cigarette. Puis quand il y a eu ma petite sœur, le médecin lui a dit, madame, c'est dangereux que vous fumez pour votre bébé. Tout d'un coup, en 9 mois, elle a réussi à arrêter. Parce qu'elle était enceinte, puis elle a repris après. La chair. La chair, la chair, la chair, la chair, ton ennemi. Mais l'homme spirituel, son esprit est plus fort que sa chair. Il domine sur la situation. Et il dit, peut-être que tu as envie, mon corps. Peut-être que tu en manques de cigarettes, mon corps. Peut-être que tu en manques de ceci, mon corps. Mais sache une chose. Ce n'est pas toi qui domine. Ce n'est pas toi le maître de ma vie. C'est Christ. Je suis mort au désir de la chair et à ses passions. Je mène une nouvelle vie maintenant, une vie en Jésus-Christ. Alors cigarette, sors de ma vie. Alors passion, sors de ma vie. Alors vice, sors de ma vie. Quand tu me diras fais ceci, pour te faire exactement plaisir, je vais faire le contraire de ce que tu veux que je fasse. Tu veux que j'aille faire ça et que je prenne une cigarette? Eh ben, je vais aller prendre un verset biblique. Vous allez voir dans quelques temps, votre chair va s'effacer. Et elle va comprendre qui est le maître, c'est votre esprit. Je passe, je vais à l'essentiel maintenant, parce que sinon mon message n'aura servi pas à grand chose à part dénoncer les choses. Comment vaincre la chair? Ça va être rapide. Vous comprenez que c'est important le message que je suis en train de vous dire? C'est très important. Parce que la chair a des désirs contraires à l'esprit de Dieu. Si vous aimez Dieu, vous désirez obéir à Dieu. Mais si vous prenez conscience que vous avez un ennemi qui vous empêche d'obéir à Dieu, il faut le traiter, non? Sinon vous ne pourrez pas obéir à Dieu. Vous voulez faire la volonté de Dieu. Vous savez quoi? Il y a un truc qui fait que Dieu ne peut pas se servir de nous. Vous dites, moi j'ai pas la paix. Moi je prie pour les gens, j'ai pas de guérison. Vous voulez savoir pourquoi? Déjà l'une des premières raisons, c'est à cause de votre chair. Pourquoi? Chaque fois que vous obéissez à la chair, vous péchez. Chaque fois que vous péchez, vous devenez exactement le contraire de ce que Dieu veut que vous soyez. Vous devez mener une vie de sainteté et vous menez une vie de débauche. Vous êtes saint dans la sainteté. Christ vous justifie. Merci Seigneur. Vous êtes sauvé. Mais vous êtes souillé dans vos membres. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que dans la maison de Dieu, il y a plusieurs vases. Des vases d'un usage vil, inutile, et des vases d'un usage noble, utile entre les mains du Maître. Les personnes charnelles sont des vases d'un usage vil. Parce que la Bible dira juste après, menez une vie de sainteté afin de devenir des vases sanctifiés, utiles entre les mains du Maître. La chair vous pousse à désobéir. Désobéir, c'est péché. Et quand vous péchez, vous ne pouvez pas être utilisé par Dieu. Elle vous empêche d'entendre la voix de Dieu. Ayez le ventre bien plein de nourriture, saturé. Passez votre temps à faire des choses autres que les choses de Dieu, c'est-à-dire autres que lire la Bible, méditer la parole et prier. Vous allez voir si vous entendez la voix de Dieu. Oui, vous entendez une voix, mais c'est la voix de votre chair. Parce que votre esprit, vous l'avez étouffé sous une tonne de sable. Il est en train de parler. Et rien ne sort. Et au-dessus, il y a le sable de votre chair. Bien gras, bien gros. Qui, lui, vous parle. Et quand vous pensez avoir une pensée de Dieu, c'est une pensée charnelle. Tu vois une sœur là, et tu dis, oh, j'ai eu une parole pour toi. Le Seigneur me dit que tu passes par des moments difficiles. C'est très dur pour toi, mais il est ton soutien. Et là, cette personne, elle est sur sa chaise, et pendant le moment de louange, elle a tourné ses yeux et elle voyait la personne assise tout le long, avec des larmes qui coulaient sur son visage. J'ai une parole. Et elle va dire à cette personne, je sais que tu es triste. Tu parles, c'est la chair. T'as vu cette personne pleurer. Hypocrite. Mais quand Dieu parle, il parle. Et tu sais qu'il parle, c'est une parole certaine. Et à cause de ces hypocrisies, ces gens charnels dans l'église, l'église a perdu un bon nombre d'incroyants à cause du jugement charnel. Des fois, des personnes pas bien lavées rentrent. Jacques dit, vous dites, mettez-vous derrière quand une personne rit, vous dites, asseyez-vous à côté de moi, c'est la chair. Comment vaincre la chair? Premièrement, notez bien, premièrement, il faut désirer changer. Je vous assure, si vous notez tous les points que je vais vous donner, vous les mettez en pratique, vous ne serez plus des gens charnels. Désirez changer. C'est-à-dire, si aujourd'hui je vous prêche la parole de Dieu, et qu'il y a parmi vous des personnes qui n'ont pas envie de changer, qui se disent, ok, je sais que c'est la vérité, je sais que c'est vrai, mais pourtant je suis bien dans ma situation. Vous n'avez pas envie de mettre la parole de Dieu en pratique, sachez une chose, si vous ne désirez pas changer, vous ne pourrez pas changer. Première chose, c'est désirer. Si tu désires, c'est bon. Puis, ne pas être sous la culpabilité du péché. Peut-être que tu as vécu dans le péché. Peut-être que tu as, à cause de ton affection de la chair, tu as été tenté et tu as fini par désobéir. Vous savez, des fois, quand vous péchez et vous faites ce qui est mal, vous perdez votre joie et votre paix. Vous vous sentez sale et vous vous sentez pas bien. Et vous vous dites, je suis bon à rien. J'arriverai pas, j'ai trop fait de bêtises, Dieu ne peut pas me pardonner encore une fois. Non, vaut mieux que je reste comme ça plutôt que le décevoir encore. Non, ça c'est la chair, ça c'est des mensonges du diable. Vous devez prendre conscience d'une chose. Ouvrez vos Bibles dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner, et pour purifier de toute iniquité. Pour nous purifier de toute iniquité. Il n'y en a pas une seule qui ne purifie pas. Il y a un seul péché que Dieu ne peut pas pardonner, mais vous ne l'avez pas fait. Je ne rentrerai pas dans ce détail. Mais il vous pardonne de toute iniquité. Absolument tout. C'est la Bible. Et si tu crois, il faut avoir de la foi pour se sentir pardonné. Et pour perdre la mauvaise conscience. Puis, juste après, il dit, et si quelqu'un, il parle à des chrétiens nés de nouveau qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont le Saint-Esprit en eux. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime propitiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour tous ceux du monde entier. Si nous gardons ses comptes, etc. La Bible est claire. Jésus-Christ a été sacrifié. Il est une offrande, un sacrifice perpétuel pour pardonner vos péchés. Alors si tu te salis dans le monde, tu prends du savon et tu te laves. S'il t'arrive de pécher, plutôt que de rester sous la culpabilité, utilise le savon que Dieu a pourvu, le sang de Jésus-Christ. Tu vas devant ton Père, c'est aussi simple qu'une prière. Tu es sincèrement désolé et tu dis, Père, pardon pour ma vie charnelle. Pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Mais ta parole dit que tu es juste et fidèle pour pardonner toutes mes iniquités. Et elle dit que si j'ai péché, je confesse mes péchés, et je dois savoir que j'ai un avocat, Jésus-Christ, qui est à tes côtés, et que lui-même a été fait péché, lui-même a versé son sang pour moi, afin que moi je sois pardonné. Et ce sang coule encore aujourd'hui pour l'éternité, pour que mes fautes soient effacées. Je te remercie de ce que je suis sauvé, justifié, non pas par mes œuvres, mais par la foi en ce que Christ a accompli, afin que ma chair ne se glorifie pas. Amen. Et là, tu peux être sûr que si tu as foi, quoi que tu as commis, Dieu a déjà oublié ton péché. Donc, c'est la première des choses. Ensuite, comprendre le système de balance. Deuxième point. C'est quoi? Regardez bien. Une balance, c'est comme ça. Là, vous avez votre esprit. Et là, vous avez votre chair. Juste une chose. Quand votre chair est là, en haut, votre esprit est en bas. Et inversement, quand l'esprit est en haut, la chair est en bas. Si la chair est en haut, l'esprit sera forcément en bas. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas être à la fois ultra charnel et ultra spirituel. Impossible. C'est une balance. Soit en haut, soit en bas. C'est à vous de décider. Quand l'esprit est en haut, la chair est en bas. C'est le principe que vous devez comprendre. Maintenant, qu'est-ce que je dis ? Si vous nourrissez et vous affectionnez, comme Paul le disait dans Galates 5, affectionnez les désirs de la chair. C'est-à-dire, chaque fois que votre chair désire quelque chose, selon tout ce que je vous ai dit, vous dites oui, amen, et vous le faites, votre chair monte, elle monte, elle monte, et votre esprit diminue, diminue. Donc, quand votre chair monte, ne vous étonnez pas que vous êtes toujours fatigué des choses de Dieu, et que vous êtes toujours enchanté des choses charnelles. Vous aimez profiter, profiter et profiter, et votre esprit n'a jamais envie de prier. Alors vous ne demandez pas pourquoi votre vie de prière est médiocre, et ne vous demandez pas pourquoi votre vie de méditation est médiocre, parce que votre chair est au top et votre esprit est en bas. Mais si, maintenant, vous comprenez que votre chair est votre ennemi et qu'il faut le dominer, et non pas l'affectionner, mais qu'au contraire, il faut plutôt affectionner votre esprit et les choses de l'esprit, les désirs de l'esprit de Dieu, quels sont ces désirs ? Méditer la parole, prier, avoir une intimité avec votre Dieu, évangéliser, faire du bien, donner de l'amour, parler de lui. Ce qui se passe, c'est que votre esprit commence à remonter et la chair commence à dire « Arrête, arrête parce que là je diminue, arrête, arrête j'ai dit !» Et toi tu dis « Alléluia, Jésus je t'aime, tu es toute ma vie. » Tu es toute ma vie, je ne trouve de plaisir qu'en toi. Même si les autres disent que je suis trop spirituel, même si les autres disent que je ne sais pas me déconnecter, moi je sais pourquoi je deviens spirituel et tu commences à me parler, tu commences à me révéler des choses, tu commences à m'ouvrir les yeux sur ta parole, tu commences à guérir des malades, tu commences à faire des choses merveilleuses, je commence à perdre ma dépression, je commence à être dans la joie. Et tout ça parce que tu nourris ton esprit. Plus tu médites la parole de Dieu, tu nourris ton esprit. Plus tu fais autre chose, tu nourris ta chair. Je ne vous demande pas d'être ultra spirituel, des gens qui s'enferment loin de la société. Non, pas du tout. Je demande un équilibre. L'homme spirituel est un homme équilibré. Et si votre âme est charnelle, sachez une chose. Vous pouvez rendre cette âme charnelle et ses pensées charnelles des pensées spirituelles. Vous pouvez transformer la chair qui est en vous. Au lieu de l'étouffer, vous pouvez aussi la transformer et la rendre spirituelle. Votre âme charnelle peut devenir une âme renouvelée, spirituelle. La chair dans votre âme, c'est les départements de votre âme non renouvelés par la parole de Dieu. La Bible dit « Méditez la parole afin de renouveler votre intelligence, d'aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque fois que tu médites la parole, tu commences à sanctifier tes désirs de ton âme. Tu commences à avoir des désirs qui sont en accord avec les désirs de Dieu. Ton côté charnel de ton âme commence à être non pas étouffé, mais être carrément transformé. Ceux qui ont des désirs sexuels, ça commence à se transformer en désirs spirituels. Ils n'ont plus envie de rien du tout. Leur chair est complètement étouffée. Ils ont juste envie de passer du temps avec leur Dieu. Ça, c'est le principe de la balance et du renouvellement de l'âme. Romains 8, 5, 8 dit « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionne aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie, la paix. » Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui vivent selon la chair, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ta chair a des désirs et tu lui obéis, tu vis selon elle. Tu la suis, tu l'affectionnes, tu la nourris, elle grandit. Et l'esprit a des désirs, méditer la parole de Dieu, évangéliser, faire du bien, etc., passer du temps avec Dieu. Et plus tu l'affectionnes, plus tu affectionnes l'esprit et plus il grandit.
Paul donc disait au début, comme je vous l'ai dit, « Je n'arrive pas. J'ai le désir de faire le bien, mais je n'y arrive pas. » Mais je vais vous donner une bonne nouvelle. Pourquoi, d'après vous, Dieu a mis le Saint-Esprit en vous? C'est pour qu'il puisse vous aider dans vos faiblesses. C'est pour qu'il puisse vous aider là où vous ne pouvez pas y arriver par vos propres efforts. Et je vais te dire une chose. Tu ne pourras jamais aimer Dieu par toi-même. Tu as besoin du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit met en nous l'amour de Dieu. La personne du Saint-Esprit. La Bible dit aussi que le Saint-Esprit met en nous le faire et le vouloir. Ça veut dire dès lors que tu vas essayer de faire des efforts, tu n'y arriveras pas. Mais tu as besoin de compter sur la personne que tu as reçue lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur. La Bible dit que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sainteté, qui est venu, envoyé par Jésus pour vous conduire dans toute la vérité, pour vous enseigner, pour vous remplir, pour vous donner le fruit de l'Esprit qui est la paix, la joie, la bonté, la fidélité. Tu manques de joie et de paix. Il faut mener une vie spirituelle, affectionner les choses de l'esprit. Et là, le Saint-Esprit va commencer à porter du fruit en toi et tu vas avoir la paix, la joie, la bonté, la fidélité, tout ce que tu cherches. Ézéchiel 36, verset 27, je crois, nous dit « Et voici, je mettrai mon esprit en vous, afin que vous puissiez obéir à mes commandements et mes ordonnances. » Dieu a des désirs et une volonté pour ta vie. Il va mettre son esprit, le Saint-Esprit, dans ton esprit, en toi, pour que tu puisses, par lui, avoir la force et la capacité de dominer ton ennemi, dominer la chair. Vous comprenez? Parlez au Saint-Esprit. Demandez-lui de vous aider. Tous les jours, si vous ne nourrissez pas votre corps, vous allez être faible et vous allez tomber, non? Si vous ne mangez pas. De même, si vous ne nourrissez pas votre esprit, la seule nourriture que votre esprit a, c'est la parole de Dieu. Vous la méditez, ça descend dans votre cœur, ça devient une nourriture. Et là, votre esprit est fortifié. Et là, ce qui se passe, c'est que vous nourrissez votre esprit et il devient fort. Évitez de trop manger. Évitez ça. C'est dangereux. Il est fou. Non, je ne suis pas fou. Quand vous grossissez et que vous vous mettez sur une balance pour vous, mesdames, vous arrivez à dire, il faut que je fasse un régime, vous avez pris 5 kilos. Et là, tout d'un coup, vous trouvez la capacité de ne plus manger ou de manger une salade tous les jours pendant une semaine. Et pourtant, quand vous vous sentez que vous prenez du poids, vous devenez bien gras spirituellement, vous n'arrivez pas à jeûner. À vous priver un peu pour reprendre du bon poids spirituel. Essayez de mettre, je ne sais pas, un soir par semaine ou un jour de jeûne. Vous jeûnez la journée, vous priez, vous méditez, et puis le soir, vous mangez. Et vous commencez à montrer à votre chair ce qui est le maître. C'est qui domine. Vous disciplinez. Évitez donc de trop manger. Quand vous mangez trop, vous nourrissez votre corps et puis vous êtes bien pâteux. Paul dit, sois sobre en tout temps, en toute occasion, sois sobre. Il le disait, il faut être sobre. Un jour, Jésus a dit à Kenneth Hagin, Jésus lui est apparu 7 fois en chair et en os, il a dit à Kenneth, arrête de jeûner comme un fou, parce que dès que tu as fini de jeûner, tu cours au restaurant et tu manges, comme un obèse. Mais il dit, je ne suis le même avant, pendant et après ton jeûne. Ce que je veux, c'est que tu mènes une vie de sobriété en tout temps. Tu ne manges pas trop, tu ne nourris pas trop ta chair. Tu fais juste ce qu'il faut pour prendre soin de ton corps et de ton âme. Et puis le reste, tu t'occupes des choses de Dieu. Entourez-vous des gens de foi et des gens consacrés, remplis du Saint-Esprit. Vous savez, il y a des gens, ils sont là avec leurs problèmes. Et ce sont vos meilleurs amis. Comment vous faites pour avoir des meilleurs amis qui toute la journée mettent dans vos oreilles que des choses négatives? Moi, mon meilleur ami, c'est un ami qui m'encourage, qui me porte, qui m'entraîne. Ayez dans votre entourage des gens qui vous stimulent, des gens qui remplissent du Saint-Esprit, vous êtes en leur présence. Ça vous fait du bien, ça vous tire vers le haut, ça ne vous tire pas vers la chair. Si vos amis sont charnels, ne vous étonnez pas que vous êtes charnels. Les gens que vous fréquentez affectent votre destinée.
vous allez dans la direction des gens que vous fréquentez trop et à qui vous accordez trop de place. Alors accordez trop de place à des gens remplis du Saint-Esprit et vous finirez vous-même par être remplis du Saint-Esprit. Ensuite, mettez une heure de prière par jour. C'est rien. Vous dites, ce qui compte, frère, c'est la qualité, c'est pas la quantité. C'est vrai, mais c'est ta chair qui te parle parce qu'elle a même pas envie de passer une heure. Mais je vais te dire une chose. Quand tu passes un temps de qualité, ça dure, non? Alors que personne ne prétend passer de la qualité sans de la quantité. Parce que quand tu as un temps de qualité, tu demeures dans ce temps de qualité. Et pour passer un temps de qualité, il faut bien souvent passer un temps difficile avant, se forcer un peu, et puis après ça commence à entrer dans la qualité. Donc ça dure. Mettez une heure par jour. Jésus a dit, n'êtes-vous pas capable de veiller, de prier une heure avec moi? C'est rien. Et au bout d'une heure, je sais, les chrétiens, ils ont des problèmes. Qu'est-ce que je vais dire à Dieu au bout de 30 minutes? Au bout de 15 minutes, j'ai le même problème. Qu'est-ce que je dis à Dieu au bout de 15 minutes? J'ai déjà tout dit. Je ne vais pas prier pour tous les gens de la terre. Ça va être ridicule. J'aurai même pas assez d'amour pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous faites? La Bible dit que vous avez un don merveilleux, le parler en langue. Parler en langue! Parler en langue! Moi, je passe 99% de mon temps à parler en langue. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce qu'il convient de dire à Dieu. Je ne vais pas le saouler avec mon baratin toute la journée. Mais on a un don merveilleux, une langue céleste. On dit des mystères sur notre propre vie à Dieu. Utilisez ce don, c'est pas n'importe quoi. Vous priez avec votre intelligence, vous voyez pas les choses changer. Commencez à prier en langue et vous voyez les choses changer. Pourquoi? Parce que lui a su demander à Dieu les bonnes choses à votre place. Et c'est pas fatigant quand on parle en langue. On se connecte, on se renouvelle. On s'épuise pas, on peut rester 2 heures à parler en langue. Éteignez le téléphone, enfermez-vous dans une pièce quand vous priez. Trouvez-vous un lieu d'intimité, un lieu secret. Peut-être ta chambre, peut-être ton salon quand tout le monde dort, mais du moment que ce lieu soit un lieu tranquille, important, un lieu secret d'intimité. Jésus avait en son lieu secret des jardins, Gethsémané, des montagnes, il aimait ça, il était tranquille loin de tout le monde. Évitez d'être trop fatigué physiquement, ne vous épuisez pas au travail pour être trop fatigué. Là, je me parle à moi-même aussi. Quand vous travaillez trop, après votre chair est fatiguée et vous n'avez pas envie de quoi que ce soit. Avant de nourrir votre corps le matin, avant de prendre votre petit déjeuner et toute autre chose semblable, montrez à votre chair c'est qui le premier. Commencez à, d'abord, avant de nourrir votre âme et votre corps, commencez à nourrir votre esprit en premier. Par là, vous montrerez à votre chair c'est qui domine, à votre ennemi c'est qui domine. Écoutez de la musique ouinte, arrêtez d'écouter de la musique du monde, ça nourrit que votre âme. Écoutez de la musique qui parle de la parole de Dieu, des louanges. Regardez des films de temps en temps. Mais n'en regardez pas trop, sinon vous nourrissez que votre âme. Équilibrez tout, toujours avec la parole de Dieu et la prière. Savoir vous couper dans la journée, dans le travail, pour passer un petit temps avec lui, etc. etc. J'ai fini. Ça a été long. Mais mon seul désir, c'est que vraiment vous mettez en pratique ce que je vous ai dit ce matin. Dieu désire avoir de l'intimité avec nous, du temps.
Maboutiquechrétienne.com.
Maboutiquechrétienne.com.
La boutique numéro 1 de téléchargement chrétien.
Numéro 1 de téléchargement chrétien.
Maboutiquechrétienne.com.
Des milliers de produits pour vous édifier dans votre foi. Maboutiquechrétienne.com.
Bienvenue dans votre boutique.